en colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la formation du système solaire, c'était le thème du colloque de l'Académie des sciences qui s'est déroulé en février 2007, réunissant académiciens et astrophysiciens, car bien des réponses échappent encore à nos scientifiques. Canal Academy retransmet l'intégralité des communications au cours de 4 émissions en colloque. Alors après avoir évoqué le contexte astrophysique de la naissance du système solaire dans un premier temps, l'évolution de la nébuleuse protosolaire dans une deuxième partie, puis la croissance des planétésimaux aux planètes, dans une troisième émission, intéressons-nous dans cette quatrième et dernière retransmission au futur des missions d'exploration du système solaire. Les missions Genesis et Stardust ont permis de rapporter des échantillons du vent solaire et d'une comète afin de déterminer la composition de la nébuleuse protosolaire et de la matière dans le système solaire externe. Bientôt peut-être arriverons-nous à prélever des échantillons d'astéroïdes, de Mars, voire d'un noyau cométaire. Nous le verrons avec Francis Rocard du CNES. Pour le moment, Bernard Marty, professeur au Centre de recherche pétrographique et géochimique, nous fait le point sur deux missions spatiales, Genesis en 2004 et Stardust en 2006.
Alors en préambule, pourquoi ramener des échantillons extraterrestres ? Eh bien, je pense que c'est la même logique des explorateurs qui partaient au-delà des océans et qui ramenaient des objets qu'ils avaient trouvés dans les terres inconnues. Et ça s'adresse en fait à comprendre un peu l'origine de la matière et des planètes, ce dont on a parlé largement aujourd'hui. Alors il se trouve que pour certains paramètres, eh bien, clés en cosmochimie, les rapports isotopiques, les éléments traces, datés, hein, la datation, ça ne peut se faire que sur Terre à l'heure actuelle, parce que vous avez parfois besoin de précision avec 5 chiffres après la virgule, et ça, vous ne le ferez jamais, enfin, en tout cas pas tout de suite, en mission embarquée. Alors, les retours d'échantillons, les missions qui en ont ramené, qui étaient dédiées à ça, il y en a eu 4. Il y a eu Apollo et Luna qui ont échantillonné la Lune. Et puis, donc je vais faire un bref retour en arrière. Et puis, donc Genesis, qui avait pour objet d'échantillonner le Soleil, et Stardust, d'échantillonner le système solaire lointain. Et vous voyez qu'entre les deux, eh bien, il y a plein de choses encore à faire, et qui a été fait partiellement par des observations in situ. Alors, donc on l'a rappelé ce matin, l'aventure lunaire a été fantastique, on a appris plein de choses. On a appris comment les planètes terrestres se sont formées, on a appris quelle a été la chronologie, on a appris la relation Terre-Lune, etc. Et puis un aspect qui est relevant à ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la composition du Soleil. Alors, la composition du Soleil, on la connaît bien sûr par l'analyse de la lumière qui est émise, mais on la connaît avec une certaine précision. Et puis, il y a également des paramètres que l'on n'arrive pas à mesurer à distance, qui sont les rapports isotopiques et qui ont une importance avérée pour comprendre comment les planètes sont formées. Et l'idée de base, c'est que si vous connaissez la composition du Soleil, eh bien, vous avez la composition, ce qui se rapproche peut-être le mieux de la composition de la nébuleuse primitive, encore que ça se discute, et vous pourrez comparer ça aux planètes et vous investiguer donc les processus de formation planétaire. Alors, dès le début des missions Apollo, eh bien, cette évidence est apparue. Et la première expérience qui a été déployée par Neil Armstrong quand il a posé le pied sur la Lune, c'était une feuille d'aluminium qui a été déployée en face du Soleil. Il n'y a pas d'atmosphère. Et donc, le vent solaire, les particules émises par le Soleil, sont venues directement s'implanter dans cette feuille d'aluminium, qui était une manip du groupe de Guys à Berne. Donc l'irradiation a été de quelques heures à quelques jours selon les manips, et ça a permis d'analyser déjà, de montrer qu'il n'y avait pas de deutérium dans le Soleil, et puis d'analyser la composition isotopique des gaz rares légers, hélium, néon, et pas au-delà, parce que les quantités accumulées pendant cet intervalle de temps étaient trop faibles. Et puis il est apparu que très rapidement, le sol lunaire, en fait, qui est formé par les impacts, hein, c'est une poudre avec une granulométrie très variable, formée par les impacts, et qui est exposée pendant des dizaines, des centaines de millions d'années à tout ce qui tombe sur la Lune, y compris les ions du vent solaire, mais pas que, on verra tout à l'heure, et donc constitue également une façon de mesurer le vent solaire, puisque là, les quantités accumulées sont énormes. Alors, voici par exemple un grain lunaire de quelques microns en fausse lumière. Vous voyez l'intérieur qui est sain, qui est la structure cristalline du grain. Et puis, vous avez une sorte d'enveloppe autour, qui est une partie amorphisée par le rayonnement solaire, par les ions du vent solaire, qui ont détruit la structure cristalline. Et c'est bien sûr là-dedans qu'il faut aller chercher les produits du vent solaire. Donc, ça peut se faire avec des analyseurs de surface, dont Marc aussi en a parlé ce matin, des sondes ioniques, qui permettent d'aller creuser, en fait, à l'intérieur de cette épaisseur qui fait en fait, en gros, c'est 50 nanomètres à la profondeur moyenne d'implantation des ondes du vent solaire. Et là, vous pouvez creuser et aller mesurer les compositions de certains éléments clés tels que l'azote. Et là, on part d'une valeur, par exemple, dans cet exemple, d'une valeur qui est terrestre. Et puis, on voit qu'on a une valeur très différente à 50 nanomètres, là où il y a le maximum de vent solaire, qui est appauvri de 20% en azote 15. Alors, ce n'est pas si simple quand même sur la Lune, parce que dans le régolithe, vous avez tout ce qui est tombé depuis des milliards d'années. Bien sûr, les ions du vent solaire, mais vous avez également, en fait, c'est un réservoir d'accumulation, des IDP, des particules interplanétaires, vous pouvez avoir des débris cométaires et tout ça. Et donc, c'est un mélange de tout ça. Donc, le signal quand même solaire est brouillé. Et puis, vous avez une autre possibilité également qui a été évoquée dès les années 70, à savoir que la composition du vent solaire a peut-être changé avec le temps, parce que le Soleil, sa composition a peut-être été variable. Bon, ça, c'est une compilation des données d'azote 15 sur 14 de tous les sols Apollo, et on voit qu'il y aurait une vague corrélation. Alors, j'ai oublié de dire, qu'ici, l'axe des X, c'est un paramètre appelé antiquité, qui est semi-quantitatif, qui donne à peu près l'époque à laquelle un sol a été exposé. Donc le présent est là, et donc l'hypothèse à l'époque, c'était que la composition du vent solaire, et donc du soleil, de la partie externe du soleil, avait changé. Alors ça va à l'encontre de ce qu'on sait du soleil, qui est stratifié, qui est bien stratifié. On le sait parce qu'il y a des isotopes de lithium qui sont dans les couches les plus externes, et qui n'ont pas été brûlés à des températures plus internes. Mais bon, voilà où on en est. Alors, la première mission dont je vais vous parler, c'est Genesis. C'est une mission de la NASA, du programme Discovery. Ce sont des missions pas trop chères, enfin, avec un plafond de 300 millions de dollars US, et qui ont une forte valeur scientifique, qui sont vraiment basées sur des problèmes scientifiques importants, dont le PI était Don Burnett. Et donc, l'idée, c'était, comme je vous l'ai dit, la composition du Soleil, et donc, quels sont les processus à l'origine des compositions planétaires. Alors, la nébuleuse, ou plutôt le Soleil est issu de la nébuleuse. 99,8% de la masse du système solaire actuel, c'est dans le Soleil. Donc l'idée, c'est que ça représente à peu près le gaz initial, et qu'à partir de là, eh bien, on peut, à partir de la mesure des planétaires, en déduire des choses sur la formation des planètes. Et donc l'idée, c'était de refaire les expériences d'Apollo, mais beaucoup plus longtemps, d'envoyer un satellite en face du Soleil, on verra tout à l'heure comment, pendant 27 mois, de façon à accumuler suffisamment d'ions du vent solaire. Alors, les priorités de la mission, la priorité des priorités, c'est la composition isotopique de l'oxygène solaire. Alors, je ne peux pas vous décrire en détail ici le problème qui se pose avec la composition de l'oxygène, parce que sinon je brûlerai tout mon temps de parole. Mais l'oxygène a trois isotopes. Il existe des variations dans les différents corps qui ont été échantillonnés, à savoir Mars par les météorites martiennes, la Terre, la Lune et les météorites. Ces différents corps présentent des variations isotopiques d'oxygène qui ne sont pas dues à des processus dépendants de la masse qui sont bien connus par ailleurs dans la nature. Donc, pour expliquer ces variations, ces variations sont importantes parce que ça a permis vraiment de faire une classification des différents corps du système solaire, mais pour expliquer ces variations, en schématisant beaucoup, on peut imaginer deux types de cadres qui ont été évoqués ce matin. Soit, on a un héritage nucléosynthétique, c'est-à-dire qu'on a des grains qui étaient enrichis en oxygène 16 qui sont injectés dans le système solaire, auquel cas la composition du Soleil, pour faire une balance de masse avec ce que l'on observe, doit être située dans cette partie. Ou alors, l'autre extrême, qui semble avoir de plus en plus sa faveur, c'est que, en fait, ces variations non dépendantes de la masse résultent de processus d'irradiation par le Soleil jeune, d'auto-écrantage du CO, qui fait que le 17 et le 18 ont été préférentiellement dissociés du CO et incorporés dans des solides. Et à ce moment-là, les inclusions riches en calcium et en aluminium qu'on trouve dans les météorites sont les plus représentatives de la valeur solaire. Donc il y a vraiment, vous voyez ici, un problème de fond qui est posé par cette composition isotopique d'oxygène, à savoir qu'est-ce qui est à la base de la formation du système solaire. Alors, il y a eu des essais qui ont été faits, notamment par Marc et Koashizume, qui ont analysé l'oxygène sur du métal. Donc, le métal, a priori, des sols lunaires ne contient pas d'oxygène. Et l'oxygène qui existe sur ce métal, l'hypothèse était qu'il venait du vent solaire. Donc, ils ont trouvé une valeur qui se situe là, qui allait bien dans le sens de l'irradiation. Et puis, Trevor Island, un an plus tard, par sonde ionique également, sur du métal de sol lunaire, a trouvé une valeur ici. Il n'y a aucune raison de supposer que les valeurs sont analytiquement fausses. Et donc, ça montre bien que la Lune, c'est quand même plus compliqué que le signal solaire n'est pas pur et qu'il y a d'autres composantes. Et ça ouvre notamment des perspectives scientifiques très importantes. Alors j'ai oublié de dire, la priorité 2, c'est la composition isotopique de l'azote, pour les problèmes évoqués là-dessus, et puis aussi parce qu'il y a des variations isotopiques d'azote très importantes dans le Soleil, les gaz rares, gaz nobles, etc. Et puis il y avait 20 priorités. Alors, pour ce faire, eh bien, l'idée était d'envoyer un satellite, une boîte qui s'ouvrait devant le Soleil, alors on va voir que ce n'était pas si près que ça, avec des cibles très très pures, donc du silicium, de l'or, du diamant, des saphirs, des choses très pures, montées sur des plateaux. Et ces plateaux avaient la particularité de pouvoir bouger, c'est-à-dire qu'il était possible d'échantillonner le vent solaire à différentes énergies. Et là, il y a un problème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de savoir si, selon l'énergie, on a un fractionnement élémentaire isotopique du vent solaire ou pas. Donc ça permettait, il y avait un détecteur d'énergie des héliums et qui permettait de mettre ces panneaux selon l'énergie. Et donc, trois régimes de vent solaire différents ont été échantillonnés de cette façon. Alors la mission elle-même, elle est partie en 2001. Donc elle est allée se positionner autour d'un point de Lagrange où les champs de gravitationnels de la Terre et du Soleil s'annulent, donc ça ne consomme pas d'énergie. Elle est restée 27 mois et elle est retournée le 28 septembre. Donc, lors du retour, la capsule porte-échantillon s'est refermée, s'est détachée du berceau de navigation. Elle est rentrée dans l'atmosphère. Elle devait être récupérée, parce que les cibles sont très fragiles, par un hélicoptère avant qu'elle touche le sol, de façon à avoir un atterrissage tout en douceur. Et ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu un petit problème de parachute. En fait, c'est un accéléromètre qui a été monté à l'envers. Il y a eu vraiment un défaut de qualité flagrant dans ce cas-là. Et tout s'est écrasé. Alors, quand on avait suivi ça en direct, on était assez... C'était assez stupéfait, surtout que la mission s'est rapidement changée en mission de géologie. Ça, c'est en train d'essayer de prendre les bouts cassés, enfin de pédologie en tout cas, les bouts cassés dans le sol du désert de l'Utah. Vous voyez ici, ça c'est le plateau avant le départ, ça c'est après, donc il ne reste pas grand-chose. Mais quand même, on a récupéré des bouts et il s'est avéré que finalement la mission n'était peut-être pas si foutue que ça. Alors le problème est le suivant, si je prends une plaque... Donc là, je prends une plaque, ça c'est un micron à peu près, c'est la partie externe de la plaque. Je fais un zoom sur les 100 premiers nanomètres et on trouve donc les atomes du vent solaire qui sont implantés à peu près à 50 nanomètres en moyenne. Et puis maintenant, le problème que vous avez, c'est que vous devez vous débarrasser de toute la pollution qui s'est mise dessus, qui soit particulière, d'absorption, etc. Donc voilà, enlever la couche superficielle. Plusieurs équipes, donc il y a 12 équipes qui sont dans le Science Team. Plusieurs équipes sont attelées à cette tâche, alors avec des méthodes différentes, soit par attaque acide. Ici, c'est Kevin McKeegan qui a monté une super sonde ionique couplée à un accélérateur. Mark Timmons par fluoriation. Nous et Milton Keynes par ablation laser. Donc, je vais brièvement vous montrer où est-ce qu'on en est. Donc, ça, c'est une manip qu'on a montée exprès pour Genesis avec un laser à 193 nanomètres. Ça, c'est la cellule laser vue de haut. Vous voyez des plaques ici. Et puis, on a passé plus de 2 ans à baisser les blancs et puis à calibrer la puissance du laser de façon à ablater, à enlever, à appeler des surfaces qui soient très très faibles. Alors, par exemple, un exemple ici, ça c'est mesuré en microscopie de force atomique, c'est la profondeur qui est mesurée après ablation, et on voit qu'on arrive à faire appeler des profondeurs de l'ordre de 10 nanomètres, et le tout, il faut le faire sur des surfaces de l'ordre du centimètre carré pour avoir assez de matériel. Ça commence à marcher. Alors nous, on est sur la priorité du numéro 2, on est sur l'azote, qu'on analyse par spectrométrie de masse statique. Alors je vais vous montrer les premiers résultats qu'on a, on ne les a pas encore montrés, il y a des barres d'erreur, mais ça c'est un diagramme de mélange. Ici vous avez la composition isotopique de l'azote. Ici vous avez un indice qui vous indique la quantité d'azote solaire qu'on a dans l'azote total, parce qu'en fait il y a plein de contaminations. Il y a très très peu d'azote solaire et beaucoup de... On est sur Terre, il y a plein d'azote. Mais ça représente chaque fois 1 cm². On commence à voir peut-être qu'il y a une corrélation qui est en train de se dessiner. Et si tout va bien, c'est-à-dire si on n'a pas de points qui vont être là ou là, à ce moment-là, la corrélation, elle semble effectivement être compatible avec les valeurs isotopiques d'azote enregistrées sur Jupiter ou dans les sols lunaires, qui représentent du vent solaire piégé il y a très très longtemps. Donc ça irait dans le sens qu'effectivement, le Soleil est bien stratifié, il n'y a pas de variation isotopique des éléments légers dans le Soleil. Mais bon, là, il faut attendre, c'est vraiment très très préliminaire. Alors, il y a eu également un résultat important qui est apparu. Ça concerne le néon, dont Manuel Moreira vous avait parlé. Jusqu'à présent, ce qu'on avait mesuré, c'est un diagramme 3 isotopes, 20 sur 22. Le néon mesuré dans les feuilles d'Apollo, sa valeur est ici. Le néon mesuré dans des météorites riches en gaz solaire et dans les sols lunaires, sa valeur est ici. Et le néon mesuré à l'intérieur de grains, sa valeur est ici. Donc on avait 3 valeurs différentes. Ce qui allait dans le sens qu'en fait, ici à l'intérieur des grains, mais ça correspond à une irradiation très importante, avec des énergies plus importantes, donc aux solar flares, aux éruptions solaires, hein, alors que le vent solaire normal, basse énergie, se trouverait ici. Et là, ça représenterait le néon donc, du système solaire naissant, donc l'idée qu'il y avait une variation singulière également pour le néon. Puis les résultats de Genesis ont montré que selon le vent solaire, toutes les valeurs sont ici. Donc déjà, on peut remarquer qu'il y a une très bonne précision par rapport aux données existantes et surtout qu'il n'y a absolument pas de variation isotopique en fonction du régime. Et donc, il va falloir revoir pas mal de choses que l'on pensait sur le vent solaire. Il semble qu'il n'y ait pas de variation séculaire également, puisqu'on ne reproduit pas. On va voir tout à l'heure comment on arrive à reproduire cette valeur ici. Et les variations observées, en fait, sont principalement dues à des processus d'implantation et d'érosion, puisqu'il y avait un verre métallique qui a été irradié sur Genesis. Ça, c'est la composition isotopique du néon en fonction de la profondeur. On sait que le vent solaire qui mesure par Genesis est une valeur constante. Et toutes les variations qu'on observe ici, c'est uniquement dû à l'implantation dont parlait Manuel tout à l'heure, qui fractionne isotopiquement les isotopes. Et donc les valeurs observées dans les météorites riches en gaz, qui sont plus basses que le vent solaire, vous les obtenez si vous enlevez cette pellicule, hein, d'une façon, par érosion en fait, hein, l'érosion cosmique, vous enlevez cette pellicule et vous allez trouver des valeurs plus basses. Alors, je vais maintenant vous parler de l'autre mission de retour d'échantillons, Stardust, qui est également du programme Discovery, et dont le PI était Don Brownlee. Et les questions que posait Stardust étaient le lien avec la matière extraterrestre sur Terre, c'est-à-dire effectivement l'origine de l'atmosphère, des océans, ou sur les planètes internes d'une façon générale. Donc pour ça, bien connaître la composition des comètes. Et puis, une autre question qui finalement peut paraître stupide, mais qui n'est pas tant que ça, est-ce que le matériel cométaire, il est solaire ou interstellaire ? Quand on sait que le nuage de Oort, par exemple, il a un diamètre qui est de plusieurs années-lumière, on peut imaginer qu'effectivement, tous les corps qui sont là n'ont pas forcément interagi avec le système solaire. Alors très brièvement, donc, la mission, ça consistait à aller se mettre dans la queue d'une comète, à passer dans la queue d'une comète et à échantillonner les grains émis lors de la sublimation de la glace par la comète. Donc pour ça, il faut une comète fraîche. Donc il y a des comètes fraîches et pas fraîches, pour ceux qui ne savent pas. Les comètes fraîches, c'est celles qui ne sont pas passées souvent près du Soleil. Et là, celle qui s'appelle Wild 2, en fait, est une comète de Kuiper qui a été capturée par Jupiter et qui, depuis 30 ans, a une orbite qui passe entre Mars et la Terre. Et donc, ça fait peu de temps, finalement, qu'elle circule près du Soleil. Et donc, elle était près de la Terre, et d'un point de vue de navigation, c'est appréciable. Alors, tout s'est bien passé. Donc, la comète est venue traverser la queue de la comète. Pardon, le vaisseau spatial est venu traverser la queue de la comète. Les grains avaient une vitesse différentielle de 6 km par seconde, donc ça fait des dégâts. On verra tout à l'heure comment ils ont été prélevés. L'atterrissage, cette fois, s'est bien passé. Et donc, très rapidement, nos collègues amis américains ont observé la cible qui était continue dans cette raquette ici. Ils ont trouvé des grains cométeurs. Alors, très brièvement, les découvertes qu'il y a eu. Eh bien, c'est que finalement, tout ce qu'on a trouvé jusqu'à présent, eh bien, on l'avait déjà vu dans des matériaux extraterrestres. On l'avait vu dans des météorites primitives, on l'avait vu dans des IDP, on l'avait vu dans des poussières cosmiques. Alors, on le voit sur le dessurage. Bon, François Robert nous a un peu cassé le moral tout à l'heure en nous disant que finalement, les mesures, il fallait attendre un peu parce qu'il y a des possibilités de contamination de terrestre dans ce cas-là. Mais bon, pour ce qui est de la minéralogie, donc on trouve de l'olivine, des pyroxènes, des sulfures, du métal. Et on trouve notamment une CAI, une inclusion réfractaire. Et tout ça, c'est du matériel qui s'est formé très près du Soleil. Donc, vraiment, la première découverte de cette mission, c'est que c'est du matériel solaire qui est typique du Soleil. Et on a un mélange tout à fait étonnant entre des phases formées à très haute température, donc près du Soleil, et des glaces de très basse température. On va voir tout à l'heure qu'elles sont vraisemblablement très, très basses. Et ce mélange, c'est fait vraisemblablement par les modèles dont on a parlé tout aujourd'hui, de reconnexion magnétique et d'éjection de matériel qui s'est très rapproché beaucoup du Soleil, qui a été éjecté dans des parties plus lointaines. Alors, je vous disais que les éléments donc, ont été piégés dans une matière spéciale qui s'appelle l'aérogel. C'est un gel de silice qui a une densité 1000 fois inférieure à celle du verre, donc très peu dense, avec donc le but était de pouvoir freiner l'énergie cinétique dans l'implantation. Alors, voilà ce que ça donne. Ici, vous avez la surface et là, vous avez les grains qui sont rentrés. Donc le grain, en fait, il a explosé, parce que, a priori, ces grains étaient riches en éléments volatiles. Donc il y a une bulle d'explosion ici, et puis le grain terminal est venu s'en ficher là, donc on le voit sur d'autres aspects. Et nous, on a eu l'idée d'analyser, on s'est dit, on était sur la mission pour analyser les éléments volatiles, notamment les gaz rares. Plutôt que d'aller voir la particule terminale qui devait être bien dégazée, c'est d'aller voir dans les parois, voir si dans l'aérogel fondu, eh bien, on n'avait pas, des éléments volatiles cométaires piégés. Alors voilà ce qu'on a analysé, là vous voyez des traces de grains, là vous en voyez une autre. Et nous, ce qu'on a fait, on s'est quand même préoccupé des éléments de contamination, c'est pas comme tout certain. C'est-à-dire qu'on a analysé successivement de l'aérogel sain et de l'aérogel, comme ça, enfin des fragments d'aérogel de trucs, et puis on a trouvé des gaz rares, on a trouvé de l'hélium et du néon. Récemment, l'Université de Minnesota va présenter à l'LPSC aussi des résultats assez similaires. Et ça, c'est quand même une découverte, parce que ces deux gaz rares légers, normalement, par clatration, on ne les piège pas aux températures supposées pour la formation des comètes, et piégeage lors de la formation de glace amorphe, on ne les piège pas non plus. Hein, les températures cométaires, jusqu'à présent, étaient supposées être 25 K minimum, voire plus. Donc, normalement, on ne devrait pas les piéger. Donc, on en a certainement beaucoup, hein, puisqu'on le voit bien. C'est un mélange, bien sûr, entre la composition atmosphérique, mais une composition qui a l'air de se rapprocher du Soleil. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est que le rapport hélium-néon, par exemple, eh bien, il est quand même très fractionné par rapport au solaire. Hein, il est autour de 20, alors que le solaire, c'est plutôt 550. Et là, eh bien, il y a peut-être la possibilité de faire la thermométrie cométaire, c'est-à-dire d'essayer de voir à quelle température cette comète, en tout cas celle-là, s'est formée. Le seul problème qu'il y a, c'est que pour l'instant, on n'a pas d'expérience de laboratoire sur des températures inférieures à 25 K qui permettrait de valider ça. Il y a un champ d'activité qui s'ouvre là. Et je crois que j'en ai fini pour le premier résultat de ces missions. Pardon.
C'était Bernard Marty, professeur au Centre de recherche pétrographique et géochimique. Après avoir fait le point sur les deux dernières missions spatiales, tournons-nous vers l'avenir. Quelles sont les prochaines missions prévues pour prélever quels échantillons? Élément de réponse avec l'astrophysicien du Centre national d'études spatiales, Francis Rocard.
Mesdames, messieurs, donc les perspectives. Ben, je vais vous parler un petit peu des perspectives, mais également faire un bref rappel du passé, parce qu'on a peut-être plus à se mettre sous la dent avec le passé qu'avec le futur. En termes de mission de retour d'échantillons, bien sûr. Voilà. Donc, environ 200 missions planétaires, j'inclus dans ce chiffre tous les échecs. Je vous rappelle que sur Mars, c'est 2 échecs sur 3, et Vénus, c'est 1 échec sur 3. Bon. Et seulement 12 missions avec retour, dont 10 succès. Donc, les 8 d'Apollo, les 2 de Luna, et Genesis et Stardust. Alors, Hayabusa, contrairement à ce qui a été dit précédemment, j'ai tendance à penser que c'est un échec. Mais après tout, nous verrons, puisque retour il y aura. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que les Japonais ne savent même pas s'ils ont collecté des échantillons. Donc, ce qui est, en termes de qualité d'une mission spatiale, un peu extraordinaire comme situation. Bon, évidemment, rien de comparable entre 380 kg d'échantillons lunaires, des picogrammes de Genesis et des milligrammes pour Stardust. Mais enfin, on fait des miracles avec pas grand-chose. Bon, Apollo, je ne suis pas un spécialiste, mais juste pour rappeler des évidences, que les échantillons lunaires ont bouleversé totalement notre connaissance sur la Lune. Le problème des cratères qui est totalement lié aux aspects d'impact. L'origine de la Lune, même s'il a fallu 15 ans après avoir digéré les échantillons lunaires pour avoir à peu près un consensus sur le modèle de l'impact géant. Le problème des composés volatiles, qui maintenant sont uniquement liés à des glaces au pôle, l'âge des roches, bien sûr, qui n'était absolument pas connu, l'océan de magma, même pas imaginé, etc., etc. Alors, du point de vue de... J'anticipe tout de suite sur la suite, du point de vue des nouveaux échantillons lunaires, parce qu'il y en aura. Les Américains, vous le savez, retournent sur la Lune pour l'horizon 2018-2020, et dès qu'on va sur la Lune, on met des cailloux dans sa poche quand on revient, évidemment. Donc, on aura des échantillons probablement du pôle sud, puisque c'est plutôt par là que les Américains veulent se poser. Ça fait partie des objectifs d'échantillons supplémentaires. Il manquera peut-être l'autre pôle, il manquera la face cachée pour l'instant. Il n'y a pas d'échantillons sur la face cachée, y compris des échantillons issus des montagnes. Bon, peut-être qu'au pôle sud, on peut considérer que c'est des montagnes, mais c'est plutôt un flanc de cratère. Alors, malheureusement, il y a un cimetière des missions, des projets abandonnés. Je vous rappelle que pour les comètes, Comet Nucleus Sample Return, c'était l'ancêtre de Rosetta. Au départ, l'idée était de faire un retour d'échantillons cométaires, qui est quand même une mission très intéressante et très attendue, toujours maintenant. Malheureusement, pour des problèmes, moi j'ai résumé ça par des problèmes thermiques, qui ont eu des impacts considérables sur le design de la mission, il fallait maintenir les échantillons à 200 Kelvin et ça a été un critère destructif qui a fait que le retour a été abandonné et que la mission est devenue Rosetta avec un atterrisseur et l'analyse in situ. Deep Space 4, pour ceux qui s'en souviennent, était au tout début, c'est une mission technologique à faible budget, mais néanmoins, les premiers éléments, très vite abandonnés d'ailleurs, prévoyaient un retour d'échantillon d'un noyau cométaire. Et très rapidement, les études qui ont été menées n'ont concerné plus qu'un atterrisseur sur une comète et finalement plus rien du tout puisque la mission dans sa globalité a été également abandonnée. Pour Vénus, grâce à vous, monsieur Claude Allègre, donc une étude de l'ESA a été menée avec un schéma pas très simple pour rapporter l'échantillon non pas de l'atmosphère mais du sol, avec un système assez étonnant où on redécolle de la surface avec un ballon. Et quand on a atteint une certaine altitude, il y a une fusée qui repart de la haute atmosphère de Vénus. Mais que je sache, depuis cette étude, il ne s'est plus rien passé concernant une mission de retour d'échantillon de Vénus, et je n'ai pas entendu parler de projet dans le cadre Cosmic Vision, puisque vous savez qu'il y a un appel d'offres pour les missions futures à l'ESA, doit sortir très prochainement, probablement ce printemps. À ma connaissance... mais ma connaissance est limitée, je dirais, aux initiatives françaises. Donc on verra s'il y a un projet de retour à l'échantillon de Vénus, du sol, voire de l'atmosphère. Sur Mars, par contre, le cimetière est très important. Avec, dans les années 80, MRSR, c'est-à-dire Mars Rover Sample Return, cette mission assez extraordinaire de rendez-vous à la surface. Il y avait un rover qui collectait les échantillons et un autre véhicule devait se poser au voisinage. Et rendez-vous à la surface était fixé, un transfert d'échantillons vers le second véhicule, qui n'était pas un rover, et une fusée de retour. Et le problème du rendez-vous à la surface, en fait, n'était absolument pas maîtrisé à l'époque. Et finalement, les incertitudes des ellipses d'erreur à l'atterrissage ont fait que la mission était finalement infaisable et chiffrée, pour la détruire, à environ 10 milliards de dollars par la NASA. Plus tard, suite encore à une initiative de vous, monsieur Claude Allègre, il y a eu le Mars 1er, c'est-à-dire entre les années fin 97 à 2003 à peu près, des études conjointes France et États-Unis, qu'on a appelées au CNES Mars 1er, qui voulait dire programme de retour d'échantillons martiens et implantation, je ne sais plus ce que veut dire ER, en réseau, voilà. En fait, il y avait à la fois la mission de retour d'échantillons et un réseau géophysique Netlander. Donc, 5 années d'études, beaucoup de tergiversations avec les Américains et finalement un report. À l'époque, la mission 2003, c'est-à-dire Spirit et Opportunity, était le premier lancement qui devait collecter des échantillons. Puis 2005, côté américain, deuxième lancement. Et cette même année, les Français devaient, avec Ariane 5, envoyer l'orbiteur de retour. En faisant de l'aérocapture, etc. Et finalement, après une longue gestation, malheureusement, un abandon côté français. En scout, mission scout, c'est-à-dire ces petites missions compétitives dans le cadre du programme martien américain, l'équivalent de Discovery, mais pour Mars, et dans la compétition de 2007, il y avait SKIM, qui était, j'ai mis une image à droite, c'était une mission de retour d'échantillons de l'atmosphère de Mars avec une espèce d'obus qui devait non pas faire de l'aérocapture, mais pénétrer dans l'atmosphère de Mars avec des collecteurs d'échantillons de gaz et de poussière situés à l'avant de l'obus et sur les côtés, et un passage éclair dans l'atmosphère, rascaillou, est ressorti immédiatement et sans s'insérer en orbite, un retour vers la Terre ensuite avec les échantillons de gaz et de poussière. Malheureusement, cette mission n'a pas été sélectionnée, il y avait 4 prétendants dans la compétition finale, et vous savez que c'est Phoenix qui est un héritage du Mars Polar Lander qui sera lancé cet été, vers le mois d'août de cette année, qui va se poser près du pôle Nord. Alors, j'ai mis Phobos 1er, c'est-à-dire que dans l'option du CNES, il y avait d'une part un retour, j'ai oublié de parler de retour d'échantillon atmosphérique, donc sur Mars 1er, on a également imaginé un retour d'échantillon atmosphérique puisque nous avions un passage dans l'atmosphère avec l'aérocapture, et nous avons étudié ce système qui finalement s'est avéré extrêmement difficile du fait de... Déjà, l'aérocapture en soi, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Ça consiste à se freiner dans l'atmosphère de Mars pour s'insérer en orbite. Et déjà, cette phase était extrêmement ambitieuse. Rajouter en plus un système perturbateur de collecte d'échantillons devenait finalement extrêmement dangereux. Donc cette option a été abandonnée par la proposition des ingénieurs de Toulouse. Il y avait également une option de se poser sur Phobos pour ramener les échantillons. Bon, et finalement, je l'ai dit, le programme a dû malheureusement être abandonné. Alors, donc Mars 1er 97-2003, bon, j'ai déjà un peu cité tous ces éléments-là. Pour la partie CNES, donc un retour d'échantillon de Mars, c'est une affaire complexe où il faut à la fois faire la collecte au sol. Et à l'époque, les Américains pensaient qu'un rover, c'était trop risqué, donc ils en mettaient deux, avec une collecte en 2003 et en 2005. Et un orbiteur, donc, comme son nom l'indique, en orbite, qui allait récupérer, c'est un peu le schéma Apollo, hein, finalement, on refait les mêmes schémas. Vous ne pouvez pas décoller de la surface de Mars pour aller directement vers la Terre. Le véhicule de remontée qui est en fond d'écran sur cette image ne peut vous mettre qu'en orbite basse, à environ 600 km d'altitude. Et l'orbiteur français devait récupérer ces échantillons, ce qui était d'ailleurs une opération extrêmement difficile. Et d'ailleurs, dans la deuxième partie des études, vers 2001-2002, où il n'était plus question de retour d'échantillons, il était question de démonstration de ce rendez-vous et capture, c'est-à-dire de récupération d'une l'équivalent d'un ballon de basket en taille à des distances de plusieurs milliers de kilomètres, retrouver ce container, se rapprocher de lui et finalement le capturer avec des effets dynamiques entre un objet très léger et un objet lourd qui est l'orbiteur, quelque chose qui évidemment n'était pas du tout évident, plus Ned Lander, réseau géophysique. Bon, là-dessus, les Américains n'ont cessé de reporter la mission de retour d'échantillon. J'ai mis 2007-2009 trois petits points. Vous verrez que les trois petits points, c'est pas terminé. Et pour le CNES, je l'ai dit. Donc on a discuté à peu près 5 ans d'accord pour finalement ne jamais signer ce fameux accord. Peut-être qu'on aurait dû se forcer un peu à signer quelque chose. On aurait peut-être fait un programme. Mais à un moment, c'était les Français qui ne voulaient pas signer. À d'autres, c'était plutôt les Américains. Aujourd'hui, tant le retour d'échantillons, ça c'est un point important, que la mission géophysique, c'est la conclusion de toutes ces études, se feront, du moins je l'espère, dans un cadre de coopération ESA, voire ESA-NASA, pour le retour d'échantillons martiens. Alors maintenant, les missions envisagées. Une mission qui est envisagée aujourd'hui pour 2009, ce qui paraît assez extraordinaire, c'est Phobos Grunt, c'est-à-dire une mission russe. C'est la première mission russe après l'échec de Mars 96 et qui vise à étudier Phobos et se poser sur Phobos et finalement faire à la fois des... Vous savez que les Russes ont toujours... maximiser, je dirais, le retour scientifique de ces missions, entre guillemets, puisque vous avez des expériences qui vont fonctionner peut-être pendant la croisière. On va avoir des expériences qui vont fonctionner en l'étude de Mars et en partie les détections, et également des expériences d'analyse in situ sur le sol de Phobos. Alors certains pensent que c'est un moyen d'avoir des ceintures et des bretelles, c'est-à-dire... À partir du moment où la mission elle-même est extrêmement risquée, en tous les cas c'est mon sentiment, au moins on aura un retour scientifique à la fois de télédétection de Mars, voire de l'analyse in situ sur Phobos. Donc le schéma est simplement un véhicule unique qui va intégralement se poser sur Phobos, dans un schéma qui ressemble beaucoup à la première partie de la mission Phobos 88, pour ceux qui s'en souviennent, c'est-à-dire... une mise en orbite bien évidemment elliptique, et puis circularisation à environ 4000 km, c'est-à-dire l'altitude de Phobos, et l'engin va se poser. Cet engin fait environ 400 kg, si on prend en compte la gravité de Phobos, il ne pèsera que 400 grammes. Il n'est pas prévu aujourd'hui de système d'ancrage sur Phobos, donc déjà c'est assez audacieux, et les informations que nous connaissons de l'état d'avancement de la mission, c'est que déjà, il y a des soucis d'énergie, par exemple, quand on sera posé sur Phobos, puisque justement, ça sera probablement le critère principal pour le site d'atterrissage sur Phobos, c'est être maximisé au donc l'énergie solaire qu'on pourra obtenir pour faire fonctionner les instruments et évidemment le système de collecte. On s'insère en orbite, tout ça est assez classique. On passe par l'orbite de type QSO, quasi-synchronous orbite, ce qui nous permet de cartographier Phobos. Et puis, une phase assez délicate, l'atterrissage sur Phobos. Évidemment, tout ça est totalement automatique, avec laser altimètre pour identifier l'altitude, mais aussi repérer une zone relativement adéquate pour l'atterrissage. À l'atterrissage, je vous l'ai dit, l'engin fait que 400 grammes, donc vous allez voir que le système est plaqué au sol par des rétrofusées qui, heureusement, crachent vers le haut, donc pas trop de pollution du sol, pas trop, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Voilà, donc ça, c'est le plaquage au sol pour éviter le rebond. Et immédiatement, la procédure consiste à collecter tout de suite les échantillons, ne pas attendre trop longtemps. Et c'est un système de collecte qui est dérivé de ce qu'ils ont réalisé sur les missions Luna, avec le système de forage et de carottes souples le système de forage avec la carotte souple. On m'a demandé dans quel matériau était fait cette carotte, je n'ai pas la réponse. Je sais que ça intéresse beaucoup toutes les personnes qui vont analyser l'échantillon pour savoir s'il n'y aura pas des problèmes de contamination. Voilà, donc carotte souple, c'est exactement le schéma Luna, Luna 26, si mon souvenir est exact. Après, un certain nombre d'analyses in situ seront opérées et des instruments peut-être français seront situés sur ce bras manipulateur, notamment un microscope de type dérivé de Rosetta. Donc il y a les analyses in situ et le film est un peu trompeur puisque le décollage sera extrêmement rapide et un tout petit véhicule va revenir sur Terre pour ramener ces échantillons environ, c'est toujours pareil, il faut à peu près 3 ans pour faire l'aller-retour sur Phobos. Voilà pour cette mission. Donc c'est aujourd'hui tel que Roscosmos, l'agence spatiale russe, nous l'affirme avec force. Faut-il les croire, ça je vous laisse juger. Le lancement est prévu pour octobre 2009 à peu près. Nous verrons si cette date sera maîtrisée. Plus de façon plus intéressante peut-être pour la France et l'Europe en particulier, il y a deux projets, donc d'une part Hayabusa 2 qui est une copie d'Hayabusa qui pourrait être lancée en novembre 2010 et on peut imaginer que les Japonais vont essayer de fiabiliser leur système avec des modifications tout à fait mineures par rapport à la première sonde Hayabusa qui, je vous l'ai dit, a peut-être fait une collecte, peut-être ne l'a pas fait, il y a beaucoup d'incertitudes là-dessus. Par contre, ils envisagent de rapporter les échantillons puisque la phase de retour va être décidée très prochainement. Ensuite, Hayabusa Mark II, ça c'est une version qui sera notablement modifiée, et c'est Patrick Michel y a fait allusion tout à l'heure, qui est prévu toujours par la JAXA en 2016. C'est une mission qui n'est pas décidée, mais qui est en phase d'étude du côté du Japon. Et pour l'Europe, il y a actuellement, en préparation à la réponse à l'appel d'offres Cosmic Vision, une mission qu'on a appelée pour l'instant NEO Sample Return, et qui est finalement un schéma dans lequel on envisage une coopération très intime, un peu du même titre que BPI Colombo, entre l'ESA et la JAXA pour réaliser cette mission, ce qui permettrait peut-être, si on est ambitieux et si les finances le permettent, d'avoir deux systèmes complémentaires de collecte d'échantillons. Après tout, si l'un de ces systèmes ne fonctionne pas, le deuxième pourra nous garantir le retour des échantillons. Donc les dates, vous voyez, sont très voisines, donc tout ça pourrait converger avec, à l'horizon 2016-2017, une mission de retour d'échantillon d'un astéroïde. Ça semble tout à fait possible. Pour Mars maintenant, j'ai rappelé un petit peu MRSR, Mars Rover Sample Return, avec cette problématique du rendez-vous à la surface qui a été abandonnée, un coût à l'époque chiffré de l'ordre de 10 milliards de dollars. Pour Mars 1er, à l'époque où on l'envisageait, le coût tel que le JPL l'avait chiffré pour l'ensemble de la mission, c'est-à-dire y compris la contribution française, oscille entre 3 et 4 milliards de dollars. c'est-à-dire à peu près 10 à 15 fois le Genesis ou Stardust, qui sont des missions de la classe Discovery. On a un peu mangé notre pain blanc du point de vue du retour d'échantillon avec Genesis et Stardust. On a fait le plus simple. Il faut quand même voir les choses concrètement. Pour Mars, c'est quand même beaucoup plus complexe. Si on essaye de définir un indice de complexité d'une mission, une mission de survol de type Genesis, un lancement, une trajectoire interplanétaire et un survol, ça fait un indice 3. Bon, c'est un indice très très basique. Une mission de type MSR avec un système au sol de collecte plus un orbiteur et un rendez-vous, faites le compte, vous avez environ 11 étapes nécessaires avant d'avoir les échantillons sur Terre. Donc l'indice est bien plus important et les coûts, un facteur 10 à 15 est probablement tout à fait réaliste. Alors, entre-temps, le JPL a essayé sur demande d'ailleurs de l'Office of Management and Budget de la NASA, du gouvernement, mais aussi de la NASA, d'essayer de réduire ses coûts, ce qui s'est appelé MSR Breakthrough. Et finalement, la seule chose que le JPL a pu proposer, c'est une mission sans rover. Je dis que cette option me paraît aujourd'hui totalement absurde, après la preuve qui a été faite de la nécessité de la mobilité, ce que j'ai appris, le phénomène Spirit et Opportunity. Donc je serais très étonné qu'une mission sans rover pour Mars Sample Return soit envisagée. Donc là, vous avez le schéma très rapide de ce qu'est cette mission, la partie orbitale et la partie atterrisseur. J'ai caché le bas de l'image en bas à droite. En fait, il y a ou il n'y a pas un rover. Ça, c'est deux versions possibles. Et du point de vue du rendez-vous en orbite, une difficulté qu'il ne faut pas sous-estimer, ce n'est pas forcément très simple, mais et avec donc dans l'option 2003-2005, on avait deux retours d'échantillons qui est avancé ici. Alors maintenant, la réalité du calendrier pour le retour d'échantillons martien, je vous présente la planche du programme martien de février 2007, c'est-à-dire d'aujourd'hui. Vous voyez la colonne de droite, 2020 plus. Aujourd'hui, la NASA envisage cette mission au plus tôt dans le créneau 2020, ce qui est un créneau compatible d'une coopération Aurora-NASA. Et vous savez qu'au-delà d'ExoMars, la NASA, dans le cadre du programme Aurora, est en train de définir une mission de démonstration de retour d'échantillon avant la mission proprement dite de 2020. Donc je pense qu'on a une opportunité à saisir. Malheureusement, elle est bien évidemment tardive, mais c'est aujourd'hui, je pense, la date raisonnable pour avoir des échantillons martiens sur Terre. Un dernier mot pour terminer, je dirais que dans les années 80, vous, c'est-à-dire la communauté, les géosimistes, vous étiez la communauté qui réclamait et qui était écoutée par la NASA pour demander cette mission de retour d'échantillons. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tellement les géosimistes qui sont écoutés, c'est quand même outre-Atlantique, c'est les exobiologistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le critère du choix des échantillons, et d'ailleurs la NASA n'arrête pas de le dire, c'est on ne va pas décider MSR parce que vous ne savez même pas où vous poser pour avoir les bons échantillons pour nous prouver que la vie a existé sur Mars. Donc aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir des échantillons très anciens, des échantillons très jeunes, des échantillons altérés par ceci ou par cela, qui étaient les critères qui étaient mis en avant dans les années 80. Aujourd'hui, c'est de ramener des échantillons dans lesquels on est à peu près sûr qu'on va trouver soit des bactéries mortes, soit des éléments qui prouvent que la vie est apparue sur Mars. Merci.
Vous venez d'entendre Francis Rocard, astrophysicien au CNES. Il s'exprimait sur les perspectives spatiales de retour d'échantillons extraterrestres. Cette retransmission du colloque consacré à la formation du système solaire se termine ici. Elle était organisée par l'Académie des sciences en février 2007. Poursuivez l'écoute de ces communications sur le contexte astrophysique de la naissance du système solaire, l'évolution de la nébuleuse protosolaire ou encore la croissance des planétésimaux devenus planètes en consultant la rubrique en colloque de Canal Académie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles émissions.